Info Week-end avec Léo Fichou.
Après la signature à Bougival du projet d'accord, les délégations politiques prennent le temps de s'expliquer. C'était le cas hier des membres du FLNKS, mais aussi côté partisan de la France de Sonia Backès. Des projets d'envergure dans les énergies renouvelables à Bouloupari, le troisième volet de la ferme photovoltaïque et la mise en service de la plus grande batterie de stockage d'Europe. Le grand retour sur le territoire de la mythique course de pneus à Païta, c'est ce matin sur le parking d'Hyper-U. En métropole, avec l'Algérie, la diplomatie des bons sentiments a échoué. Bruno Retailleau souhaite revenir en première ligne sur le dossier algérien. À Nîmes, dans le quartier Pissevin, la guerre entre réseaux de narcotrafiquants fait rage et a atteint un point de non-retour. Le sport, rien ne va plus à la Fédération calédonienne de football entre les élus du Conseil fédéral et le président Gilles Tavergeux. Et puis en cyclisme, Tadej Pogacar écrase la concurrence. Il a remporté cette nuit sa quatrième victoire d'étape sur cette édition du Tour de France. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce journal à la une de l'actualité. Ce que nous avons signé n'est qu'un projet d'accord, il revient au bureau politique de décider de la suite. C'est le message qu'a fait passer la délégation du FLNKS présente à Bougival, qui a fait hier après-midi un premier retour sur les 10 jours de négociations. Jean-François Baudin.
Nous avions un mandat pour mener les négociations et le document que nous avons signé à Bougival n'est qu'un projet d'accord. Emmanuel Tchipaou, Rocco Amitan, Michael Forest, Alosio Sacco et Omera Neslin n'ont pas réellement commenté ce projet sur le fond, reconnaissant qu'il présentait des avancées mais aussi des points qui posent encore question. Emmanuel Tchipaou, le chef de la délégation indépendantiste du FLNKS, a expliqué que ce projet qui existe maintenant et qui n'est pas un accord définitif doit être présenté aux instances du FLNKS et à la base de chacune de ses composantes.
On a dit qu'il faut revenir au pays pour présenter aux instances. Nous on revient, on a signé le document, chacun s'est engagé sur ça. On revient, on présente aux instances, les instances statuent. Il faut qu'ils déterminent aussi la pertinence de ce qui est porté. Qu'est-ce que c'est la loi organique spéciale? Les contours de ce sui generis qui se redéfinit à chaque fois qu'il y a un projet qui est porté sur la table. Nous, c'est ça qui nécessite pour nous un éclairage. Nous, on a notre réseau et c'est aussi à ce titre-là qu'on a demander ce laps de temps-là pour vérifier la pertinence et les équilibres de ce projet.
La délégation FLNKS rappelle qu'elle a été mandatée par le congrès de Puebo le 28 juin dernier pour reprendre les discussions sur la base du projet proposé par Manuel Valls lors du conclave de Deva. Elle concède qu'il y a eu des concessions de chaque côté lors des discussions de Bougival pour parvenir à ce projet d'accord. Certains éléments vont dans le sens de l'accession à la souveraineté qui reste l'objectif du FLNKS et d'autres doivent être encore explicités.
Le projet d'accord en l'état, il porte des points d'avancée notables sur la souveraineté, la question de la trajectoire, le fait de déterminer des compétences régaliennes à rétrocéder au pays. Là, ça nourrit directement le projet du FLNKS. Après, il y a une partie sur la double nationalité. On questionne aussi la notion d'État dans l'État. C'est quelque chose qui est nouveau et qui interroge. Parce que quand on doit l'expliquer auprès de nos structures, on n'a pas la réponse. Nous, on a posé les questions directement aux constitutionnalistes là-bas. Tous les jours, il y a une nouvelle version qui sort, c'est intéressant en soi, mais pour nous, c'est un exercice de clarification qui est nécessaire pour que tout le monde comprenne bien la même chose sur la partie constitutionnelle.
Et parmi les autres points de tension, le FLNKS mentionne l'ouverture du corps électoral. Mais le chef de file de la délégation FLNKS de Bougival assure que malgré les points qui restent à éclaircir, le front reste engagé dans la recherche d'un accord politique.
Nous, on est toujours dans la phase de discussion, de négociation. On est résolu à trouver un accord politique. Il y a des éléments qui sont positifs dans ce projet, il y en a d'autres qui sont à débattre. Et pour nous, c'est là où la discussion elle est portée aujourd'hui à l'avis des structures du Front.
Les membres de la délégation FLNKS de Bougival ont tenu à faire ce premier retour à la demande de leur président, Christian Théin. Ils vont maintenant faire un retour à leur base et c'est le bureau politique qui décidera de la suite à donner aux discussions. Bureau politique du FLNKS qui doit se réunir mardi prochain.
Et c'est Sonia Backès, la chef de file des loyalistes, qui était hier midi l'invitée du magazine Transparence. Elle a joué un rôle important dans les négociations de Bougival. Elle a signé le projet d'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Pour elle, il y a 5 avancées majeures pour les partisans de la France. D'abord, le maintien dans la France, mais aussi l'absence de référendum, l'ouverture du corps électoral, le rééquilibrage du Congrès et le pouvoir aux provinces. Elle a également été interrogée sur le déroulement des négociations et sur le calendrier de mise en œuvre. Une interview de Sonia Backès qui sera rediffusée demain soir, juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible en audio et en vidéo sur notre site internet. Ce matin, à partir de 11h, ne manquez pas la rediffusion du club politique de Radio Rythme Bleu. Il est entièrement consacré au projet d'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie signé samedi dernier à Bougival. Les consultants du club l'ont analysé, décrypté, ont essayé également de mesurer ses conséquences et la façon dont il peut être accueilli dans chacun des camps. Un club politique disponible également en podcast audio sur le site internet de Radio Rythme Bleu.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion. Votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu, la réponse à notre question d'hier. Sans surprise, à l'unanimité, tous les auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS estiment qu'il y a un besoin de communication et d'information sur le projet d'accord signé à Bougival. Merci pour votre participation et rendez-vous lundi pour une nouvelle question du jour. Le lancement de 3 projets d'envergure dans les énergies renouvelables à Bouloux-Paris. Hier matin, Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge du secteur, le maire de la commune, Pascal Vittori, ainsi que les opérateurs privés ont acté l'agrandissement de la centrale photovoltaïque de Bouloux-Paris, ainsi que la mise en service de la plus grande batterie de stockage d'Europe, Michael Juneski.
Oui, des investissements de 15 milliards de francs qui s'inscrivent pleinement dans le schéma de la transition énergétique de la Nouvelle-Calédonie. L'objectif est de poursuivre le verdissement en mix énergétique. Un bon signal pour Christopher Gigès, le membre du gouvernement en charge notamment de l'énergie.
15 milliards d'investissements privés, 200 emplois qui vont être créés et surtout qui s'inscrit dans une semaine qui est capitale pour la Nouvelle-Calédonie. On a eu une vraie visibilité institutionnelle qui a été donnée avec l'accord de Bougival et dans l'accord de Bougival, il y a un pacte économique. Et je crois que ce qui est fait aujourd'hui à Bouloux-Paris avec ces investissements privés, avec ces emplois qui sont créés et des investisseurs nationaux qui sont Total et Acquio qui reviennent en Nouvelle-Calédonie avec une volonté vraiment de développer ce territoire, je crois que c'est une très belle séquence. On est parmi les plus grands projets nationaux et européens. Sur la batterie, on est la plus grande batterie de France et d'Europe. Et on est donc dans une volonté véritablement de verdir le mix énergétique calédonien, de fournir une énergie pas chère et décarbonée à la fois aux Calédoniens, mais également au secteur de la métallurgie. Mais on est aussi dans une volonté de construire une filière. Et de construire une filière, c'est un engagement sociétal des opérateurs de former des jeunes Calédoniens pour qu'ils puissent trouver des emplois dans ce secteur d'activité.
Le projet le plus important est donc celui de la batterie de stockage portée par Acquio, un investissement privé de 9 milliards de francs qui en fait la plus grande d'Europe. Elle doit permettre de proposer de l'énergie verte sur le réseau calédonien la nuit. Samuel Lopez est le chef de projet d'Acquio.
Nous avons 150 MWh de capacité nominale, mais une capacité installée de 220 MWh. Nous avons fait ça afin d'avoir une redondance en cas de maintenance, panne, on peut basculer de l'un à l'autre et garantir à 100% du temps les 150 MWh. Nous avons 50 MW de puissance et c'est l'équivalent d'une grosse centrale thermique du territoire. Donc c'est pourquoi c'est un projet emblématique et très important. Aujourd'hui, le surplus d'énergie solaire produit dans la journée, on ne peut rien en faire parce qu'on n'a pas assez de stockage. Et demain, grâce à la batterie, on pourra stocker le surplus d'énergie solaire produit pendant la journée et le réinjecter le soir, augmenter la part des énergies renouvelables sur le réseau et verdir la production d'énergie calédonienne.
Cette batterie va stocker le surplus d'énergie produit par la centrale photovoltaïque de Bouloux-Paris dont la construction de la troisième tranche va débuter. 100 000 panneaux vont être installés sur 98 hectares de terre coutumière. À terme, elle produira au total 90 mégawatts-crête. Sa mise en service est prévue dans 2 ans.
Au chapitre des faits divers, les gendarmes continuent leur lutte active contre les trafics de stupéfiants. Ces derniers jours, la brigade de Wailou, appuyée par les gendarmes mobiles, ont mené une opération dans les tribus de la commune. Résultat, 1210 pieds de cannabis ont été découverts et détruits. En décembre dernier, je rappelle qu'une opération anti-délinquance avait déjà permis aux gendarmes de Wailou de mettre la main sur 735 pieds de cannabis, mais aussi sur du matériel d'éclairage, 6 projecteurs et 7 panneaux solaires.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Païta, c'est le 100.4.
Passons au programme des sorties du week-end sur le territoire et direction Païta. Donc, le parking de l'Hyper-U accueillera de nouveau la mythique course de pneus, Michael.
Oui, par groupe de 4, en famille ou entre amis, ce sera l'occasion de s'amuser dans une ambiance festive. Au programme 2 courses et un concours du plus beau pneu. L'association Témoignages d'un passé organise cet événement. Les précisions de Marina Minocchi, la responsable du musée rural de Païta pour l'association Témoignages d'un passé.
La course de pneus, c'est un jeu que pratiquait autrefois, il y a plus de 60 ans, dirons-nous. Bourgeon, les enfants de la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit de prendre un pneu usagé, deux bâtons, à l'époque c'était des bâtons de mimosa, là nous proposons des manches à balai, et de faire rouler en mettant un petit peu d'eau savonneuse à l'intérieur, de faire avancer le pneu. Le parcours est plat, sauf pour la course d'obstacles. Il y aura un obstacle à surmonter et deux obstacles à contourner. Pour s'inscrire, c'est gratuit et les départs vont s'effectuer dans l'ordre des inscriptions. Alors, le matériel, lui, il est fourni sur place, sauf pour, cas exceptionnel, le concours du plus beau pneu customisé. Évidemment, la personne arrive avec son pneu déjà peint. Mais ça veut dire qu'à la maison, on choisit des bombes de couleurs et on décore son pneu.
La course de pneus, c'est de 8h à midi sur le parking de l'hyperrue de Païta. Pour plus de sécurité, des chaussures fermées et un pantalon sont recommandés. Les inscriptions sont gratuites et se feront directement sur place.
Deux jours d'animation au village de Ponérioin avec la fête de l'igname et du tarot.
Les visiteurs seront attendus à partir de 8h aujourd'hui et demain. Les exposants et le comité organisateurs proposeront de découvrir ou redécouvrir les produits du terroir, la gastronomie locale avec l'incontournable grand marché de produits vivriers et d'artisanat. Les exposants proposeront des plats également à base d'igname et de tarot. Les animations et le podium libre se dérouleront jusqu'à 20h ce soir et encore demain de 8h à 16h. Et puis, notez qu'à Vaux, le syndicat d'initiative organise lui de 8h à 17h son grand marché cœur. En fait, ça se passe sur la plage de Gatop.
Et rappelons que la soirée d'observation astronomique prévue ce soir à la fois est reportée au samedi 26 juillet, ce sera donc samedi prochain. 7h passée de 12 minutes sur Radio Rythme Bleu, première pause dans ce journal, on verra tout ce qui fait l'actualité en métropole et dans le monde juste après.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
À la recherche d'une voiture d'occasion. Direction les occasions du village automobile OPK4 à Nouméa. Plus de 200 véhicules d'occasion révisés garantis vous attendent. Citadine agile, pick-up robuste ou SUV racé. Vous avez le choix au meilleur prix. Le financement, nous avons les solutions. Alors, inutile de chercher ailleurs, car les occasions du village automobile, c'est le grand parc d'occasion de Nouvelle-Calédonie. Rendez-vous au village automobile OPK4 à Nouméa, à côté de la Save Express, au 41 45 08 ou sur Facebook. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite de votre journal avec l'actualité en métropole, on retrouve Léo Fichou.
Bruno Retailleau veut reprendre la main dans le dossier algérien. Dans un entretien dans les colonnes du Figaro, le ministre de l'Intérieur et patron des Républicains appelle à abandonner la méthode douce prônée par l'Élysée et le Quai d'Orsay, qualifiée de diplomatie des bons sentiments pour assumer, je cite, un rapport de force que le pouvoir algérien a lui-même choisi. En toile de fond, bien sûr, toujours ces négociations pour obtenir la libération de Boualem Sansal. Mayalène Trémollet pour Europe 1.
Bien décidé à inverser le rapport de force avec Alger, Bruno Retailleau s'engage à en discuter dès la semaine prochaine avec Emmanuel Macron. L'Algérie cherche bien à humilier la France, selon le ministre de l'Intérieur, qui dresse une liste accablante de preuves, à commencer par le maintien de l'écrivain Boualem Sansal en prison, mais aussi les quelques 120 refus d'admission d'Algériens munis de leurs papiers, donc expulsables, depuis le début de l'année. Alors Bruno Retailleau égrène ses priorités, bloquer au niveau européen la négociation en cours sur l'accord commercial d'association, sortir des accords de 1968 pour retirer leur statut dérogatoire aux immigrés algériens, ou encore empêcher la venue et l'installation des hauts placés algériens qui dénigrent la France. Et c'est un combat que Bruno Retailleau entend mener sur le long terme, puisque le ministre de l'Intérieur appelle à continuer la lutte pour revenir sur les accords de 1968, quitte à poursuivre les efforts après la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il écarte par ailleurs toute démission de la place Beauvau en lien avec Alger, qui représenterait avant tout une victoire pour le gouvernement d'Abdelmadjid Tebboune, selon sa propre expression.
Mayalène Trémollet pour Europe 1. Et dans ce même entretien, Bruno Retailleau évoque également les mesures pour redresser les finances publiques présentées mardi par le Premier ministre. Il salue, je cite, « un plan avec de bonnes pistes mais qui peut et qui doit être amélioré ». Parmi les propositions les plus clivantes, la suppression des deux jours fériés, le gel des pensions de retraite ou encore un coup de rabot sur les dépenses de santé. Des idées qui valent à François Bayrou une impopularité record, 20% d'opinions positives seulement, une défiance exprimée par les Français.
On demande beaucoup aux Français, un peu moins à la représentation nationale, qui pourrait aussi faire des efforts comme nous.
Et il y a les retraites, donc on les gèle, c'est toujours les mêmes qui payent en fait, c'est ça. dépité maintenant.
Les deux jours fériés qui comptent être supprimés, alors malgré ce qu'il en dit, ils sont quand même lourds de sens. C'est pour moi la mesure la plus choquante.
Celle sur la santé aussi, elle est surprenante. Demander à ceux qui ont besoin de soins d'en avoir un peu moins ou de devoir payer un peu plus, c'est quand même un peu inquiétant aussi.
On ne prend pas à ceux à qui il faudrait prendre. C'est encore les pauvres qui vont mettre la main au portefeuille. Non, ça, c'est pas normal. On ne peut pas avoir confiance en eux.
Un propos recueilli par Margot Bongrand dans les rues de Toulouse pour Europe 1. Direction Nîmes, à présent, où un climat de terreur s'installe progressivement alors qu'une guerre fait rage entre réseaux de narcotrafiquants. Un point de non-retour semble avoir été atteint. Il y a d'abord eu cette exécution d'un jeune homme de 19 ans diffusée sur les réseaux sociaux en début de semaine. Ces dernières heures, l'un des hauts lieux du trafic de drogue, le quartier Pissevin, est devenu une zone de non-droit. Antoine Bienveau pour Europe 1.
Oui, car depuis plusieurs mois, des groupes de narcotrafiquants se livrent à une guerre sans merci pour s'emparer de ce quartier de Pissevin. L'un de ces groupes a même publié un message sur les réseaux sociaux pour menacer la population. Je cite « Faites attention à vous, gardez vos gosses en sécurité. Chaque personne qui croise nos hommes en noir sera criblée de balles. » Un message évidemment très menaçant, destiné à faire fuir les consommateurs de stupéfiants qui viennent s'approvisionner à Pissevin et qui alarme surtout Mélissa Gilles, représentante du syndicat Alliance Police dans le Gard.
Je ne comprends pas que des narcotrafiquants empêchent les citoyens de sortir. Ils demandent aux mères de famille de garder leurs enfants et de ne pas les envoyer chercher du pain et que même les enfants de 5 ans seront des cibles pour eux. C'est carrément aberrant. J'avais jamais vu ça.
Selon Mélissa Gilles, des renforts dont une compagnie de CRS devrait arriver dans les prochaines heures. Insuffisant néanmoins selon la syndicaliste qui alerte sur le manque d'effectifs dans le département.
Ce que je vois, c'est qu'en fait, on met du sparadrap sur une plaie ouverte. Et ben, vous savez ce que ça fait quand on fait ça? Ben, ça veut dire que la plaie, elle se referme jamais. Parce qu'ils ne vont jamais s'arrêter si on n'arrive pas à les enrayer.
La situation semble en effet urgente, et ce, bien au-delà de Pissevin. Dans le quartier de Mas-de-Mingue, par exemple, des agents municipaux venus vider les ordures se sont vus refuser l'entrée hier par deux hommes cagoulés et armés de Kalachnikov.
Et puis à Marseille, situation toujours préoccupante. Au nord de la cité phocéenne, l'incendie qui s'est déclaré jeudi soir à Martigues est contenu, mais pas encore fixé ni circonscrit. Environ 250 hectares parcourus par les flammes, 340 soldats du feu restent mobilisés. Nos pompiers protègent nos forêts, notre patrimoine. Je leur exprime notre reconnaissance et notre soutien, écrit Emmanuel Macron. 7h passées de 18 minutes, on marque une seconde pause dans ce journal avant de parler sport.
Le Salon du Tourisme revient le samedi 26 juillet de 9h à 19h au Parc Brune-Léa Nouméa. Profitez de l'entrée gratuite pour découvrir les loisirs et les activités touristiques en province sud et bénéficiez d'offres exceptionnelles. Animations, concerts, show cooking, food court et espaces pique-nique seront au rendez-vous. Plus d'informations sur le site de sudtourisme.nc, un événement organisé par l'agence d'attractivité Sud Tourisme.
La mairie de Païta et le comité des fêtes vous informent. La 27e fête du bœuf est reportée au dimanche 12 octobre en raison des fortes pluies. Rendez-vous en octobre pour partager tous ensemble une belle journée festive. Plus d'infos sur ville-païta.nc.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité sportive, c'est la suite de votre journal. On retrouve Léo Fichou.
Du football avec une réunion hier matin du Conseil fédéral de la Fédération calédonienne. Les élus ont acté la suspension de Gilles Tavergeux de toutes ses fonctions. Une décision qu'il conteste. Le torchon brûlé depuis plusieurs mois déjà entre le président de la FCF en place depuis 2020 et la majorité des élus du Conseil fédéral. Hier matin, 5 d'entre eux étaient réunis dans une des salles du stade Numa Dele. 5 élus sur 9, la majorité était donc atteinte et ils ont acté le vote de défiance du mois dernier. Marcel Ounet, deuxième vice-président de la Fédération calédonienne de football.
Oui, donc le 21 juin, une décision a été prise par la majorité des membres du Conseil fédéral, qui est notamment la suspension du président pour un délai de 5 mois. Donc le président n'est pas révoqué, parce que c'est dans les réglementations, dans nos textes. À l'issue de ce Conseil fédéral du 21, il y a eu un PV de constat par voie du siècle qui a été transmis. Donc c'est là qu'il a contesté. Que le Conseil fédéral, qui est l'organe exécutif, donc la majorité, c'est 5, c'est dans nos statuts. Donc on a fait un vote de défiance. Donc le vote de défiance veut qu'il y ait absence de confiance.
Marcel Ounet, Noam Théin, Irénée Harry, Héloïse Méhoun et Tony Dupré reprochent à leur président des décisions unilatérales, sans concertation donc des élus du Conseil fédéral. C'est le cas notamment pour l'ouverture de l'Académie fédérale de Païta. Gilles Tavergeux est donc suspendu de toutes ses fonctions, élu du Conseil fédéral, mais aussi et surtout président de la FCF pour 5 mois, soit jusqu'à fin novembre. Il conteste cette décision et s'est défendu hier après-midi. Gilles Tavergeux était même étonné de la convocation du Conseil fédéral.
Parce que, un, les textes, ben, c'est le président de la Fédé qui convoque le Conseil fédéral. Deux, c'est le président aussi qui établit l'ordre du jour. C'est l'article 31 de nos statuts. Ensuite, lorsqu'ils ont fait cette réunion le 21 juin, où ils m'ont suspendu, un, j'ai pas été convoqué, donc j'ai pas eu le droit à ma défense. Deux, à aucun moment, ça fait partie de nos statuts que le Conseil fédéral convoque en dehors du président. Le Conseil fédéral, il a certaines compétences. On peut suspendre, mais des simples licenciés. Alors que l'Assemblée fédérale, elle a la compétence d'élire et de révoquer les membres du Conseil fédéral. Ils sont partis sur l'article 35, alinéa N, qui parle d'une suspension provisoire d'un membre du Conseil fédéral. Sauf que l'article 10 de nos statuts précise qui sont les membres. Les membres, ce sont les clubs, les comités et les associations fédérales. Donc moi, président de la fédération, je ne suis pas un membre. Donc ils ne peuvent pas me suspendre. Il faut qu'on fasse notre assemblée générale ordinaire. Il faut arrêter les comptes 2024. Parce qu'on est tenu de le faire. Et ensuite, il faut voter notre budget. Et tant qu'on n'aura pas tenu cette assemblée générale ordinaire, on ne peut pas faire une élection. On ne peut pas laisser les comptes comme ça continuer à travailler dans le flou. Il faut quand même qu'on ait une assemblée générale ordinaire pour arrêter les comptes 2024 et voter notre budget prévisionnel.
Gilles Tavergeux explique qu'une assemblée générale doit se tenir très prochainement, normalement le 3 août prochain. Mais de leur côté, les 5 élus du Conseil fédéral ont formulé une demande de calendrier électoral pour la mise en place d'élections à la présidence de la FCF. Si la demande des élus du Conseil fédéral est acceptée, les élections à la présidence devraient avoir lieu fin septembre. Passons à présent en revue avec vous, Mickaël Juneski, le reste de l'actualité sportive en Calédonie ce week-end.
Oui, il y aura du football encore, mais cette fois-ci côté terrain avec l'avant-dernière journée de la Super League. 4 matchs au programme, Gaïtcha Horizon Patho et Mandor Tigaspor dans le groupe A, Losine Egeu et Saint-Louis Magenta dans le groupe B. Du futsal également, la première journée de la phase régulière à l'IFU. 4 matchs programmés, 4 matchs aussi cette fois du côté de Koné pour la 4e journée des groupes du Nord. Et du côté de l'actualité des sports nautiques. Notez que le CNC organise ce week-end la 3e manche du challenge croiseur Sirius Solar NC. Ça se passe en baie des Citrons. Et puis il y aura aussi du karting demain matin de 7h30 à 13h à Nakutacoin, la 2e manche du championnat de Calédonie. Demain, toujours, les archers de Païta organisent cette fois le championnat de Nouvelle-Calédonie de tir à l'arc extérieur aux distances nationales. Enfin, un rendez-vous sportif en pleine nature, le raid du Lions Club de La Foy qui reviendra demain au parc provincial des Grandes Fougères à Farino avec 3 parcours proposé, 50% des bénéfices seront reversés au Lions Club de La Foy.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu à Boulou Paris, Saraméa, La Foy, Moindou, Farino, c'est le sang.
L'actualité sportive avec également des Calédoniens engagés encore une fois dans des compétitions internationales hors du territoire.
Et on parle tennis tout d'abord et cette 3e défaite en 3 rencontres pour Nicolas Ngodrella et l'équipe d'Océanie Pacifique à la Coupe Davis. Le Calédonien s'est incliné hier après-midi contre le Qatari Essa Kabazar à 2-6-5-7. Prochain rendez-vous, ce sera contre l'Irak pour la sélection Pacifique. Victoire obligatoire pour se maintenir dans le groupe 4 de cette Coupe Davis. On suivra également les championnats de France d'athlétisme à Saint-Étienne en métropole avec de nombreux Calédoniens engagés, notamment Loanville sur le 400 mètres, Vadim Strogar sur le 110 mètres et à la perche ou encore Leslie Filitoulaga au lancer de disque et de poids. Sur l'eau, Clément Colmas et Alexandre Janin ainsi que Thomas Goyard seront eux à Hawaï où ils participeront à la célèbre Molokai Tu Oahu, compétition de stand-up paddle qui réunit les meilleurs pratiquants mondiaux de la discipline. Et puis un mot de karting également puisque Raphaël Gilles, 12 ans, et Luca Padovese-Robo, 15 ans, disputeront quant à eux le championnat d'Australie ce week-end également.
Le sport sur la scène nationale et internationale avec du cyclisme et forcément le Tour de France.
Air Canin vous présente le Tour de France. De Nouméa à Paris, 3 vols par semaine via Singapour et 3 vols directs via Bangkok à partir de 191 000 francs TTC.
Le Slovène Tadej Pogacar s'est encore une fois illustré, cette fois c'était sur la 13e étape.
Oui, une 4e victoire d'étape déjà depuis le début de cette édition de la Grande Boucle pour Pogacar. 2e succès d'affilée, il a remporté le contre-la-montre individuel dans les Pyrénées en devançant le Danois Jonas Vingegaard et son compatriote slovène Primoz Roglic. Encore une démonstration pour Pogacar qui surclasse cette année toute la concurrence.
C'était une très belle journée pour moi, pour l'équipe.
J'étais à fond de toute façon depuis le premier mètre jusqu'à la ligne d'arrivée. Je suis très heureux de la forme, des jambes. Très belle journée dans cette ascension de Peyragudes. Je suis très heureux.
Et au classement général, Pogacar conserve son maillot jaune avec plus de 4 minutes d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard, très exactement 4 minutes 7 secondes. Remco Evenepoel, le troisième, est déjà relégué à plus de 7 minutes du leader. Le meilleur français, c'est toujours Kevin Vauclin. Il est sixième à 8 minutes 15 du maillot jaune. Ce soir, le peloton poursuivra son périple sur une 14e étape longue de 182 km au départ de Pau, toujours dans les Pyrénées.
Du rugby aussi ce week-end avec le troisième et dernier test match du 15 de France en terre néo-zélandaise.
Oui, après deux défaites face aux All Blacks, 27-31 et 17-43, les Bleus auront à cœur de sauver l'honneur. Ce soir, à partir de 18h05, Fabien Galthié a procédé à 9 changements. Gaël Ficou, Michael Guillard, Hugo Radouin, Gabin Villière et Rabah Slimani seront de retour en tant que titulaire pour cette dernière rencontre de la tournée d'été des Bleus. Et puis, toujours en ce qui concerne le rugby, les moins de 20 ans disputeront quant à eux la nuit prochaine la petite finale de la Coupe du Monde des Bleuets qui seront opposés à l'équipe d'Argentine.
Du football au féminin, les joueuses de l'équipe de France disputeront demain matin à 6h leur quart de finale de l'Euro. Ce sera face à l'Allemagne. L'actualité du volley avec l'équipe de France au masculin cette fois qui s'est imposée sur Cuba en Ligue des Nations.
Oui, avec un succès au tie-break après avoir réussi à renverser le match face aux Cubains 3-7 à 2, les Bleus se rapprochent du Final 8. Ils restent pour le moment sur 4 victoires d'affilée dans la compétition. Leur prochain adversaire, ce seront les Iraniens lundi matin pour nous, pour tenter de rester sur un sans faute.
On passe au sport mécanique avec ce week-end du rallye et de la MotoGP.
Oui, sur deux roues tout d'abord. Marc Marquez a encore une fois été le plus rapide lors des essais libres en vue du Grand Prix de République Tchèque de MotoGP. Ça devient une habitude pour l'Espagnol. En revanche, la belle surprise, c'est la prestation des Français. Joan Zarco sur Honda a signé le deuxième meilleur chrono, juste devant l'autre tricolore, Fabio Quartararo, troisième temps de référence au guidon de sa Yamaha. Il faudra confirmer ce soir avec les qualifications, puis la sprint race. La course est programmée demain soir dès 23h, heure de Nouméa. Du côté des sports tout-terrain, sur 4 roues, cette fois la 8e étape du championnat du monde des rallyes, le Suédois Oliver Solberg, au volant de sa Toyota, qui est en tête du classement avec 12 secondes d'avance sur Rod Tanak, 14 secondes d'avance sur Thierry Neuville. Le Français Adrien Fourmeau est actuellement à la 5e place, déjà 8 spéciales de disputer sur les 20 au programme ce week-end.
On signalera qu'en golf, les meilleurs joueurs de la planète sont réunis ce week-end au Royaume-Uni pour le British Open. C'est le 4e major de la saison. Et puis pour être complet sur l'actualité sportive à l'international, il y a du MMA de cet après-midi. Un combat de légende entre Dustin Poirier qui fera ses adieux à l'UFC face à Max Holloway. Ils se disputeront la symbolique ceinture BMF. Après le sport, place à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
La météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Léo, nous sommes en vigilance jaune avec un vent violent sur l'ouest de Vaud à Bouloupare ainsi que sur Farino et Saramea. Ça sera un vent orienté nord-est soufflant dans les vallées en rafale jusqu'à 35 voire 40 nœuds aux environs de 70 km/h. Et une vigilance jaune concernant des pluies et des orages sur Bélep, la pointe nord, le nord-est. Un risque de pluie orageuse pour cette nuit. Ce matin, sur l'ouest, l'extrême nord, le temps sera ensoleillé. Sur les autres régions, alternance entre nuages et éclaircies. Ils déposeront quelques averses sur le sud-est, la pointe sud et le sud des Loyautés. La côte ouest sera défendue, excepté dans l'axe des vallées où le vent sera orienté nord-est autour des 15 nœuds et des rafales donc jusqu'à 30 nœuds. Ailleurs, il sera orienté nord-est toujours autour des 10 voire 15 nœuds et 15 à 20 nœuds aux extrémités de la Grande Terre. Cet après-midi, le soleil résistera sur le sud-ouest, il est en recul sur le nord-ouest. Ailleurs, le ciel sera souvent très nuageux, quelques ondées isolées toucheront la façade est marée en fin de journée. Et vers Bélep, le vent pour cet après-midi orienté nord-est comme prévu aux extrémités de la Grande Terre et dans l'axe de certaines vallées de la côte ouest autour des 20 nœuds, des rafales prévues donc jusqu'à 30 nœuds voire 35 à 40 nœuds. Dans les vallées, ailleurs, 10 à 15 nœuds et on termine par les températures. Elles sont comprises en général entre 25 et 28 degrés et jusqu'à 29 degrés par endroit. Ce sera sur l'ouest.
Merci beaucoup Thierry. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. C'est donc la fin de cette édition. On se retrouve dans une demi-heure à 8h pour le rappel des titres. À tout à l'heure.